les échanges des êtres conciliaires lors du Concile Vatican II. En entrant de l'Église, vous avez peut-être senti une odeur de neuf, un petit peu de chauffage aussi. De nouvelles chaises ont été installées dans la première partie de la nef. Elles sont plus confortables et vous permettront de mieux profiter de la présentation et des échanges qui suivront. Ne cherchez pas à les déplacer. La commission de sécurité impose qu'elles soient attachées les unes aux autres pour éviter les chutes. Nous remercions tout particulièrement le Père Émile Hénard d'avoir préparé ces trois conférences. Pour ceux qui n'avaient malheureusement pas pu participer à la première conférence du mois de juin, je rappelle très succinctement qu'après de nombreuses missions dans les secteurs pastoraux du diocèse, vous êtes père actuellement responsable du service diocésain de la communication et membre très actif du service diocésain de la formation permanente. C'est à ce titre que certains d'entre nous ont la chance de vous rencontrer et de vous écouter régulièrement pour l'organisation des maisons d'évangile et la formation sur l'évangile selon saint Matthieu cette année. Alors, il m'est impossible de faire un résumé de la première présentation très riche du mois de juin. Elle était très intéressante, de par les comparaisons dans l'évolution de l'Église depuis les apôtres, et aussi riche d'anecdotes personnelles savoureuses. Vous nous aviez aussi parlé de la constitution d'Eli Verboom et de la nouvelle place accordée à la parole de Dieu. Si certains d'entre vous le souhaitent, je pourrais leur fournir un enregistrement de cette conférence. Ils n'ont qu'à venir me voir et me donner l'adresse mail, on pourra s'entendre là-dessus. Et pour ceux qui ont regardé mercredi dernier sur Arte le documentaire sur ce concile, vous aurez pu peut-être vous remettre en mémoire une bonne partie de ce qui avait été présenté, mais avec une connotation très allemande et une grande place accordée à la scission des traditionalistes, alors que presque tous les textes du concile ont été votés à l'unanimité. C'est une remarque qui a fait bondir un certain nombre de personnes. La présentation était très particulière. Ce soir, Père, vous allez nous présenter les textes du Concile relatifs à l'Église en tant que peuple de Dieu. Et avant de vous laisser la parole, nous pouvons chanter ensemble « Peuple de baptisés » pour nous mettre dans l'ambiance.
Aleluya, aleluya,
Pierre, je vais vous laisser la parole. Je rappelle qu'à la fin de cet exposé, il y aura un dialogue avec le Père et des questions que vous pourrez lui poser. N'hésitez pas à les conserver en mémoire pour la fin de la chose. Et surtout, n'oubliez pas de ramener vos téléphones portables quand vous sortirez de l'église.
Endormir. Moi, je suis obligé de rester éveillé. J'espère aussi ne pas trop vous compliquer l'existence. Parce que des sons de cloche, il y en a beaucoup, moi j'en suis une. Alors, je donne un son, je donne un ton, mais il peut y avoir d'autres tons ou d'autres sons de cloche. Je voudrais dire que je suis plutôt du genre partisan de Vatican II. Ça oriente déjà ce que je vais dire. Bon, c'était peut-être pas la peine de le dire, mais quand même. Et puis, j'ai aussi été excité par certaines productions ici ou là qui vraiment sont déplaisantes et qui ne correspondent pas à ce que les évêques ont voulu et ont signé. C'est quand même un peu embêtant de parler au nom des évêques en ne respectant pas ce qu'ils ont signé à 2500 voix contre 8, 10 ou 15 au maximum. Que ce soit pour le texte qu'on va regarder aujourd'hui, le Mediatio, que ce soit sur la parole de Dieu, Dei Verbum, la fois dernière, que ce soit la prochaine fois, Gaudium et Spes, il était un peu plus, une quarantaine de rejets, de notes plachettes, pour différentes raisons, et en particulier, il était trop ouvert sur le monde, et certains n'acceptent pas une église ouverte sur le monde. Et ensuite, il n'a pas été assez travaillé. Donc, à retenir que les textes du Concile sont des textes de compromis. Ce qui fait qu'un texte de compromis, à 2500, c'est pas comme un théologien qui exprime sa pensée. Quelquefois, on l'oublie. Alors, on prend un morceau, et puis on oublie que le morceau d'à côté, c'est le « oui, mais ». Voilà, on prend le « oui, mais » et on refuse la phrase précédente. Donc, quelquefois, on utilise une partie des textes du Concile contre une autre partie du Concile. Or, c'est un ensemble. Je ne vais pas vous en faire la démonstration, mais sachez-le, ça fait partie des nécessités pour comprendre et interpréter Vatican II. Alors, dans mon introduction, préalable pour interpréter, c'est quelques éléments que je vais donner. Ensuite, il y a trois parties, certainement inégales. La première partie, c'est le long chemin entre Vatican I et Vatican II, non plus par rapport à la parole de Dieu, ça s'était fait la fois dernière, mais plutôt par rapport à qu'est-ce que l'Église dit d'elle-même, comment elle se comprend. Donc il y a ensuite un temps sur les préparations immédiates, les sujets de discussion, mais j'en aurais parlé déjà dans le premier moment. Et enfin, on prendra un petit temps, un temps assez important, selon ce qui va nous rester comme minute, j'espère trois quarts d'heure, sur les 8 chapitres de l'Humen Gentium. Alors, l'Humen Gentium, comme titre, c'est « Lumière des peuples ». De toute façon, ce n'est pas l'Église lumière des peuples, c'est le Christ lumière des peuples. Ne nous trompons pas là-dessus. Donc l'Église a voulu commencer par non pas dire voilà ce que nous sommes, mais si nous sommes ici, c'est parce que le Christ est lumière des peuples et souhaite s'adresser à tous les hommes. C'est à moi à retenir, tous les hommes. Voilà. Alors dans la première affirmation, pour comprendre ce concile, il faut se dire qu'il invite à revenir aux fondamentaux. Alors, les fondamentaux, c'est Dieu, Père, Fils, Esprit, vous me direz, c'est évident. Mais commencer par définir l'Église en disant « c'est Dieu qui l'a voulu, qui l'a souhaité, Dieu, Père, Fils, Esprit ». Dieu qui invite tous les hommes à entrer dans sa vie, ben, c'était un petit peu nouveau. Parce qu'on avait d'autres idées sur l'Église, une société. L'Église est une société voulue par Dieu, mais c'est une société bien organisée. Alors qu'ici, c'est tout à fait différent. Je vais le dire juste après. Donc l'Église trouve sa source en Dieu, Père, Fils, Esprit. Et la deuxième affirmation, c'est que l'Église est sacrement, c'est-à-dire signe et moyen de l'union à Dieu et de l'unité du genre humain. Union à Dieu et unité du genre humain. Bon, rien que de dire ça, ça peut donner des allergies à certains. Tout au moins, ça a été source d'allergie. D'abord, dire l'Église sacrement. Il y a 7 sacrements, voilà un 8e. Bon, je ne rentre pas dans la discussion, mais c'était un mot qu'il ne fallait pas employer, parce que depuis le Concile de Trente, il y avait 7 sacrements. Maintenant, voilà un 8e. Ensuite, signe et moyen de l'union à Dieu, oui, d'accord, c'est normal, elle est faite pour ça, union à Dieu. Et unité du genre humain, alors moi, on voyait un peu moins. Ce n'est pas la mission de l'Église de vouloir l'unité du genre humain. Il y a eu des discussions là-dessus. Donc, je reviens sur, pour interpréter les textes de Vatican II, ce sont des textes théologiques. Alors, ça a quelquefois un style littéraire qui n'est pas nos habitudes d'écrire, nos habitudes de parler. Donc, c'est un style de théologien. C'est aussi un style de théologien avec des mots compliqués parce que, il y a les mots de la profession, si vous voulez. Vous allez à un congrès de médecins, vous aurez un certain nombre de mots compliqués, vous allez voir un colloque de psychologue, c'est pareil. Donc, acceptez que dans l'Église, il y ait aussi des formules compliquées, même si elle veut s'adresser à tout le monde. Donc, ce sont des textes théologiques. Leur objectif, c'est de parler de Dieu, mais de parler aussi des rapports des hommes à Dieu. Donc, premier élément à retenir. Deuxième élément à retenir pour interpréter. Fruit de débat entre théologiens et évêques. J'aurais peut-être dû dire la fois dernière, les évêques venaient avec leurs conseillers, au singulier ou au pluriel. Il y avait des théologiens qui accompagnaient leur évêque à leur demande. Donc, en plus des évêques qu'on a vu tout à l'heure dans l'Assemblée, il y a aussi tous les conseillers théologiens. Bon, pour la France, il y avait Conguin, il y avait de Lubac, mais combien d'autres? J'ai marqué les votes entre 2200 et 2500, plachettes, pour, et 6, 10, 15 maximum, notre plachette. Je dis 2200 à 2500, il y avait 2650 évêques convoqués. Tous n'étaient pas là, et puis il y avait quelquefois des abstentions. Donc, lorsqu'on dit entre 2200 et 2500, disons que c'était la quasi-majorité, quasi-absolue. Donc, je reviens un petit peu sur cette histoire ancienne, mais je ne vais pas l'aborder tout à fait de la même manière que pour la fois dernière, Dei Verbum, où j'avais plus insisté sur la difficulté de comprendre l'évolution de l'homme, l'évolution de la société, l'évolution de la compréhension de la préhistoire au regard de ce que la Bible dit de l'histoire. J'avais surtout insisté là-dessus avec les conflits 19e, 20e siècle. Aujourd'hui, bien, il y a d'autres aspects du conflit. Donc j'ai mis évolution de l'Église et de la société. La primauté du pape et le rôle des évêques. Si j'avais du temps, je raconterais comment, au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte, le guide nous a bassinés sur la primauté du pape, au point qu'il a oublié de parler que Jésus-Christ était passé par là. Enfin, ça, ce n'est qu'un détail. Mais il avait reçu un son de cloche qui mettait le pape au-dessus. Les autres, je ne sais pas si les évêques, il en avait parlé. Bref, trois quarts d'heure au moins là-dessus. Primauté du pape et rôle des évêques, ça a été un sujet de débat. Pourquoi ? Parce que après le concile de Vatican, hein, vous vous souvenez un tout petit peu, 1869-1870, ça s'est terminé très rapidement à cause de la guerre. Donc, on a pris comme argent comptant un document qui n'était pas terminé. On a parlé du pape, surtout du pape, à peine des évêques, si bien qu'on a retenu le pape, d'autant plus que nos catholiques français ultramontains, hein, c'est un mot que vous ne connaissez pas, ultramontains, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est tous ceux qui regardent au-delà des Alpes vers le pape. Alors, il y a les ultramontains, et en face, il y avait les gallicans, ceux qui regardaient l'Église de France. Donc, les ultramontains, eux, voulait absolument faire passer l'infaillibilité pontificale. Pas seulement la primauté, mais l'infaillibilité pontificale. Et une fois qu'on a fini de discuter, Vatican I, là-dessus, on a pu aller plus loin, mais il était déjà fort tard dans l'histoire humaine. Cette primauté du pape va jouer des choses difficiles à Vatican II autour de la collégialité. Pas seulement pour dire, bon, le pape décide et puis nous on suit, mais lorsque les évêques ont découvert, lors de la première session, ont découvert qu'ils étaient nombreux et de tous les pays du monde, et lorsqu'ils votaient, ils ne votaient pas seulement pour les chrétiens de leur diocèse, mais qu'ils votaient pour les chrétiens dépendants des autres évêques, ils ont découvert qu'ils étaient co-responsable de l'Église universelle. Et c'est comme ça qu'a pu naître cette notion de collégialité. Ensemble, avec le pape, nous sommes responsables de l'ensemble des baptisés et même de l'ensemble de l'humanité répandue sur la terre. Collégialité, ensemble. C'était nouveau. Ça a eu du mal à passer. Bon, autre chose qui a joué entre Vatican I et Vatican II, c'est l'image du pape enseignant. C'est pas mauvais en soi, mais en fait, on n'écoutait pas seulement l'évêque qui faisait son mandement, mais on était à l'écoute des déclarations du pape. Alors, il y a eu pas mal d'encycliques au XIXe siècle, au XXe siècle. C'était la parole du pape, donc la parole officielle, et ben, les évêques étaient que des petits évêques. Du pape. Donc l'image du pape devient le pape enseignant, encyclique. Bon, Rerum Novarum, par exemple, hein, les choses nouvelles, Léon XIII, etc., Pie X. Mais le pape enseignant, il va évoluer avec les techniques de communication, les radiomessages de Pie XII. Donc ce n'est plus des encycliques, ben, il s'adresse au monde entier à partir de sa radio. Il montre que même le pape, il évolue. Maintenant, il fait avec Internet, il fait directement des vidéos, etc. Mais il n'est plus considéré comme l'enseignant de l'Église. C'est une nouveauté qui mérite d'être tenue. Bon, gallicanisme et ultramontanisme, j'en ai parlé, je le laisse tranquille. L'Église, société parfaite, société pyramidale. Je ne sais pas si c'est tout de suite, oui. J'arrive. Donc, pour présenter un peu cette Église société parfaite et pyramidale, il y a une image du catéchisme de 1935. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je vais vous le lire quand même. C'est pour un commentaire du Concile Vatican I. Les déviations de la primauté dans la catéchèse. Comment on enseignait le pape dans un livre de catéchisme pour tous. Le pape et les évêques. Mais le pape ne peut pas aller partout, dans tous les pays du monde. Il faut qu'il soit aidé. Ce sont les évêques qui aident le pape, qui aident le pape. Tout à l'heure, j'ai parlé de co-responsables. Là, ils aident le pape. Bien. Vous voyez sur l'image, le pape et les évêques, vous reconnaissez bien le pape. Il est habillé de quelle couleur? En blanc. Bon, c'est le catéchisme pédagogique quand même, en question-réponse. Et il y a combien de papes? Un. Il n'y a jamais qu'un pape, sauf à Avignon. Et les évêques, de quelle couleur sont-ils habillés? En violet. Est-ce qu'il y a beaucoup d'évêques sur la terre? Oui, dans tous les pays du monde, il y a des évêques, et les évêques obéissent au pape. Collégialité dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on a enseigné ça, les évêques qui obéissent au pape. Non pas qu'ils doivent se révolter contre, mais ils participent à la mission commune. Donc, on n'a pas montré tous les évêques sur l'image parce qu'il n'y aurait pas eu de place. Voilà, voilà, 1935, la mise de pain. Donc, cette image d'église, le pape, les évêques. L'église, les baptisés, silence. Alors, voici une autre image plus récente, celle-là, elle est en couleur. 1948, les plus anciens l'ont peut-être eu dans leur catéchisme de jeunesse. 1948. L'église n'est pas seulement le petit clocher de notre village, c'est déjà pas mal ça. Quelquefois, on devrait dire un curé n'est pas pape dans sa paroisse, ni le conseil paroissial, ni le AP. Parfois, je doute. Vous voyez ce que je veux dire? On a tendance à dire hors nous, on s'en fout. Donc, cette image, l'image la plus intéressante, c'est de voir tout en haut, il y a Jésus-Christ, en dessous, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, et en bas, le bas peuple, c'est-à-dire les fidèles. Alors, les petites anomalies dont on ne se rend pas compte, c'est pas mal après tout comme ça. Mais, Concile Vatican II va d'abord modifier. Non pas Jésus-Christ sur sa croix, ou même s'il est triomphant, mais c'est le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Tout à l'heure, je vais le signaler, l'Église existe par la volonté du Père qui envoie son Fils, qui envoie l'Esprit-Saint. Une espèce de décalque entre théologiens, on appelle l'Église issue de la Trinité, des Trinitatés. Bon, donc l'image de Jésus-Christ tout en haut. Et Vatican II va immédiatement après situer tous les baptisés. Chapitre 1, Dieu, l'Église. Chapitre 2, les baptisés. C'est-à-dire qu'immédiatement, on arrive en bas d'image. Vous voyez ce basculement? Ça ne veut pas dire que le pape n'existe plus, que les évêques n'existent plus, mais il y a un renversement du regard. La fois dernière, je vous ai lu le début de Dei Verbum. Ce désir de Dieu d'entrer en dialogue, en conversation avec tous les hommes, comme avec des amis, pour leur faire partager sa vie divine. Ce qui a été dit à Dei Verbum, on le retrouve de la même manière avec le texte qu'on va aborder, Lumen Gentium. La volonté de Dieu, c'est de rassembler tous les hommes dans le baptême. Qu'est-ce qu'on fait du pape et des évêques? Bon. Vous voyez un petit peu? Alors, pour revenir dans cette situation de l'Église et de la société, après le gallicanisme, l'ultramontanisme, la séparation de l'État et des Églises, le vieux 1905. Mais ça a laissé des traces, et des traces énormes. Ce n'est pas encore tout à fait réglé. Pour l'Église de France, oui, à peu près, sauf que... C'est pas, actuellement, il n'y a plus de conflit réellement important entre la République, l'État français et l'Église catholique. De temps en temps, il y en a certains qui essaient d'exciter les uns contre les autres. Ça ne marche pas. Donc la séparation de l'État et des Églises a été quelque chose de très douloureux. Si vous allez dans le bureau des archives, il y a toujours... une peinture, un tableau qui représente l'armée de l'époque en train de sortir les séminaristes et leurs enseignants du palais Saint-Laurent, expulsion. Certains d'entre vous ont peut-être aussi entendu parler des expulsions de religieux, religieuses dans les écoles, etc. Hein? Disons que ça a marqué, et ça fait qu'il y a eu un courant anti, vraiment anti, républicain. Ça date pas que de là. Ça date 1789, de la suppression de la royauté, l'époque où royauté et Église étaient très liées ensemble. Bon, une petite anecdote, hein, puisque j'en sens que vous aimez bien ça, c'est... Ah, j'ai oublié son nom. À Montreuil, le nom du prof d'histoire, historien, maire de Montreuil, Bruno Bretoir, dans son bouquin sur la piété à Marie, à l'occasion d'un colloque pour les 1000 ans de prière mariale, de dévotion mariale, il écrivait, en 1920, on a remis très fort en vigueur la procession à Notre-Dame de Lourdes. Bon, disons, ça s'était calmé, il y avait une procession à Notre-Dame de Lourdes, ni plus ni moins, mais il s'est passé une espèce de réaction des catholiques et royalistes pour sortir les bannières de Marie, bien sûr, mais contre la République qui voulait les empêcher de se promener dehors, séparant l'Église et l'État. Donc il y a eu d'un seul coup un accès de fièvre à Boulogne, avec cette procession dite mariale, mais avec des relents politiques. Bon, remarquez, ça existe dans beaucoup d'endroits. Il y a la religion qu'on met en avant, mais derrière, il y a des intérêts politiques. Mais c'est intéressant de retenir que 1920, c'est 15 ans après la séparation de l'État et des Églises, il y a des tensions. Puis on a d'autres aussi. Bon. D'une manière générale, la société est toujours considérée comme hostile à l'Église. Hostile à l'Église, tout ce qui tourne autour des philosophies. Bon, là, il faut remonter en arrière, 18e siècle, 19e siècle, mais les philosophies de la Révolution française, Diderot, d'Alembert et combien d'autres, Voltaire, tout ça, c'est considéré comme des gens hostiles. Et ceux qui continuent, j'ai envie de dire, même Jules Ferry est considéré comme hostile à l'Église. Il veut une seule école pour les petits Français. Et alors, et notre école catholique, où est-ce qu'on la met? Etc., etc. Donc, séparation de l'Église et de l'État, société considérée comme hostile à l'Église, et j'ai envie de dire, l'Église le leur rend bien. Donc, toute la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est un certain nombre de condamnations. Pie 11, Pie 9, Pie 10, ça on l'a vu. Alors, pourtant, je vous ai donné le volet négatif, volet positif. Pourtant, il y a toute la tension aux questions sociales, Léon XIII, Rerum Novarum, les mouvements d'action catholique au début du XXe siècle. Il y a Pie XI qui n'a pas oublié que 40 ans avant lui, il y avait eu le pape Léon XIII, donc quadragésimo anno, l'anniversaire, le 40e anniversaire est fêté dignement, en disant il s'est passé quelque chose. Dans le même temps, il y a tous les mouvements sociaux qui continuent leur chemin. Alors l'Église accepte ou l'Église n'accepte pas, vous sentez, il y a eu une époque où c'était pas toujours très bien vu d'être dans les courants sociaux. Et pourtant, si je prends M. Armel, peut-être qu'on n'a plus beaucoup de souvenirs de M. Armel parce que son usine est fermée depuis longtemps, mais Léon Armel a quand même été un des acteurs d'une espèce de vie sociale éclairé par l'Évangile. Bon, il n'est pas le seul. J'en arrive à Pie XII. Pie XII, 39. Il arrive à peu près en même temps que l'ouverture des hostilités. Mais pourtant, Pie XII travaille beaucoup sur une nouvelle manière de présenter l'Église. L'Église corps mystique. Ça fait loin, ça fait un vieux mot. L'Église corps mystique, ça reprend quand même en partie l'image de saint Paul, nous sommes un corps avec des membres différents, etc., mais tous ordonnés au corps. Donc, il a présenté une encyclique dans laquelle l'Église est vue comme un corps et non comme une société. Bon, par rapport à l'exégèse, il y a eu Divino Affinité qui a ouvert aussi l'étude de la Bible plus largement. On n'osait rien dire parce que c'est l'Esprit Saint qui avait dit Alors, si on interprète une phrase de la Bible, c'est qu'on n'est pas d'accord avec l'Esprit Saint. Condamné. Donc, la recherche était jusqu'à cette époque-là quasi bloquée. Je dis bien quasi bloquée, parce que ça a quand même continué. Dans la même époque, dans l'évolution de l'Église, il y a aussi le renouveau liturgique. Et ce renouveau liturgique, c'était le premier des mouvements en France, en Allemagne, en Belgique. En Allemagne, c'était important pour une simple raison, c'est qu'après leur défaite de 14-18, ils n'avaient pas le droit de faire des réunions organisées. Donc on faisait des réunions liturgiques où on parlait de beaucoup de choses. Donc là, sous couvert de religieux, on faisait aussi de la politique. Mais en même temps, les idées commençaient à progresser sur une liturgie plus participative. Pas seulement on est là à assister, c'est-à-dire regarder le prêtre qui dit sa messe et prier avec les prières d'émotion qu'on proposait pendant que le prêtre faisait l'offertoire, pendant que le prêtre faisait la consécration, pendant qu'il y avait la communion. Donc les chrétiens avaient leur petit livret parallèle avec toutes les prières à dire pendant. Tout doucement, ça a évolué. C'est à cette époque-là, entre 1920 et 1950, qu'il y a les messes dialoguées. Alors, le prêtre pouvait dire en latin sa messe, puisqu'il était obligé, mais en même temps, il y avait cette messe dialoguée, il y avait une personne et puis une assemblée qui allait en répondre de façon à être plus active. Bon. Sur le renouveau liturgique, je ne sais pas qui a participé à la journée avec Philippe Barra. Philippe Barra a beaucoup insisté sur ce renouveau liturgique. Et moi, j'aime bien rappeler, il y a combien de stations au chemin de croix ? 15. Vous êtes sûr ? Non. Depuis 1958 à Lourdes, effectivement, il y a 15 stations. Avant, il y en avait 14. Ce changement de 14 à 15 stations, c'était pour remettre en valeur la résurrection du Christ. Autrefois, eh bien, le Christ nous avait rachetés par ses souffrances et pensait à l'insistance sur les souffrances du Christ. Le jour de Pâques, la messe de Pâques était terminée le samedi à 9h du matin et on pouvait venir avec son broc d'eau bénit et repartir chez soi avec le pot, samedi matin, 9h. Ou 8 heures, selon les gens accès matinaux. À partir de Pie XII, il y a cette volonté de renouveler la manière de célébrer la liturgie. Donc on a mis en valeur le jour de Pâques, la célébration de Pâques. Ça, c'est 1951. Alors n'allons pas dire que c'est Paul VI qui a fait la réforme de la liturgie. 1951, Pie XII a commencé. Et puis en 1955, il y avait la réforme complète des trois jours, le Triduum, qu'on continue à fêter aujourd'hui. La veillée de Pâques prend une importance qui n'existait pas il y a 60 ans. Donc, renouveau liturgique, ça fait partie des choses qui progressent. Bon, l'évolution de l'Église et de la société, j'ai déjà dit un certain nombre de choses, l'évolution des sciences et des philosophies, ça continue à progresser. Mais du côté des catholiques, on reste ferme. Je pense qu'on aura la semaine prochaine Adam et Ève dans nos liturgies. On aura Adam et Ève, le chapitre 2 de la Genèse. C'est comme ça que Dieu a fait le monde et a dit il y aura un homme et une femme, point terminé. Aujourd'hui, ça discute. Non pas qu'il faut changer, mais aujourd'hui, on va accepter de discuter sur cette manière de concevoir Dieu qui crée l'homme et la femme, etc., etc. Bien. Évolution des sciences et des philosophies, et il y a un petit peu d'évolution dans l'Église. Affrontement royaliste et républicain, j'y reviens pas, sauf pour signaler une bagarre entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. Pour qu'il a vous dit quelque chose, Dreyfus, capitaine juif, on a accusé d'avoir servi l'ennemi, d'avoir été espion, etc. Donc il était dégradé, Mais il s'est créé un courant pour Dreyfus et un courant contre Dreyfus. Et la plupart de ceux qui étaient contre Dreyfus, un grand nombre de catholiques, anti-juifs, c'est normal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et toujours est-il qu'il y a eu une déchirure, et que cette déchirure qui a commencé vers 1895 a continué jusqu'à 1920. Et ce matin, j'entendais dans une émission que c'est l'État français qui avait décidé la suppression de l'Action française. Moi, je croyais que c'était les évêques. Non, il semblerait, j'ai pas eu le temps de tout comprendre, que l'Action française, qui est un mouvement héritier de cette époque-là, a quand même été très très mal vu. Et lorsque je dis Dreyfus anti-Dreyfusard, c'est l'époque où prend consistance une extrême droite. Extrême droite, dont on va retrouver des traces dans l'éducation de Monseigneur Lefebvre, fils spirituel de ceux de cette époque-là, mais aussi d'un Patrick Buisson. Pour vous dire que des choses qui remontent très loin, mais il y a encore des ramifications aujourd'hui. Donc, affrontement royaliste-républicain, et moi je dis côté catholique, on était mélangé, mais d'un côté ou de l'autre. L'existence des deux guerres mondiales, de la guerre froide, ont amené quand même les papes à dire « Est-ce qu'on ne va rien faire? Est-ce que ce n'est pas notre problème ?» Pie XII avait déjà eu des interventions, Mitbrennerzorge, donc pour insister sur le rejet nécessaire du nazisme. Bon, ça, c'est Pie XII. Et cette période de l'Église voit en même temps les points technologiques de la société. Qu'est-ce qu'on fait? On est admiratif? On est béat? Donc, devant tout cet environnement, l'Église, le pape, les évêques disent, on ne peut pas rester indifférent à vivre dans notre cellule d'Église. D'où la feuille de route du Concile. Cette feuille de route qui est définie par Jean 23, d'abord définir l'Église et sa foi. Deuxièmement, revoir le rapport entre catholiques et autres religions chrétiennes. Donc c'est le rapport avec les protestants, surtout les églises protestantes, anglicanes, etc. Les églises orthodoxes. On a sûrement encore en tête Athénagoras. Le baiser de Paul VI à Athénagoras, qui a quand même marqué... pas seulement les journalistes, mais les chrétiens en disant « il s'est passé quelque chose ». Le rapport au judaïsme, pas si simple que ça. Alors, le rapport aux autres religions, alors j'ai mis simplement le titre « Liberté de conscience et liberté religieuse ». Le rapport aux autres religions, lorsque Jean-Paul II ira à Assise, ça n'a pas été accepté par tout le monde. Lorsque, il y a 2 ans déjà, on a fait ici le 25e anniversaire, il y a quand même eu quelques réactions. Le site de Vatican II, le site internet, a été piraté par ceux qui refusent qu'on parle de la rencontre d'Assise. Donc, il y a des choses qui ont été voulues en profondeur à cette époque. La liberté de conscience, la liberté religieuse. Bon, le rapport au monde où l'on refuse de condamner. C'était dur pour certains cardinaux et évêques de dire on ne condamne pas ceci, on ne condamne pas cela. Refus de condamner est d'abord un regard de compassion. Un regard de compassion en disant mais tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que nous ne pouvons pas l'éclairer par l'Évangile? Alors en fait ça va être la prochaine rencontre, la manière dont l'Église va parler au monde. Un regard de miséricorde, mais aussi un regard positif. Les joies et les peines, les angoisses et les tristesses des hommes de ce temps sont aussi les joies, les angoisses, les peines des disciples de Jésus-Christ, etc., etc. Je vous le laisse pour la fois prochaine, mais ça vient de cette volonté de Jean 23 de s'intéresser à ce qui fait la vie des hommes. Et puis dernière chose, c'est que Jean 23 dit ce concile, vos paroles, c'est pas uniquement des paroles pour le peuple chrétien, c'est des paroles qui s'adressent à tout le monde. Bon, il disait pas tout le monde comme moi. Mais cette volonté de dire cette parole que vous aurez, c'est une parole qui s'adresse au-delà de nous-mêmes. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. Donc, j'ai dit l'essentiel du climat en raccourci. Dans la préparation du concile, je dirais, Église, que dis-tu de toi-même ? Ça, c'est Jean 23 qui l'a souhaité. Église, que dis-tu de toi-même ? Bon, je ne vous dis pas tout. Alors, il y a eu un questionnaire préparatoire envoyé aux évêques. À partir de là, il y a une commission des doctrina emorum, c'est-à-dire de la doctrine et des mœurs, présidée par le cardinal Ottaviani, qui a essayé de faire un tri dans les questions et les réponses, mais aussi un tri sélectif. Bon, cette commission va pondre un document avec des chapitres, avec des opinions prédigérées où les évêques n'auraient plus qu'à signer en gros. On ne va quand même pas faire un concile qui va durer une éternité, donc on prépare le travail, on vous donne le papier à signer, puis vous partez chez vous. Je caricature, mais à peine. Si vous allez voir le livre de John O'Malley, c'est présenté de cette manière. Seulement, ce dossier, ce document a été rejeté presque immédiatement. La fois dernière, je vous ai parlé du cardinal Liénard, qui tout au début du concile avait souhaité prendre la parole, mais il l'a fait malgré que ce soit interdit. Donc il avait pris la parole pour oser demander qu'on se connaisse un peu avant de voter pour les délégations de telle et telle commission, ce qui avait été accepté. Or, voici que le premier projet qui est présenté est rejeté. Ceci ne nous plaît pas, et l'une des raisons, c'est qu'il y avait encore cette hostilité au monde, c'est qu'il y avait surtout les manières de parler du Concile de Trente, les manières de parler de la théologie, que ce soit Saint Thomas ou bien la néo-scolastique, c'est-à-dire au début du XXe siècle, on avait essayé de refondre la philosophie du XIIIe, la philosophie théologie du XIIIe, dans un langage plus moderne, mais il n'avait rien bougé par rapport à ce qui avait été dit par les précédents grands théologiens, parce que je dis grands théologiens, c'est Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, etc. Donc, le rejet vient aussi qu'on n'a pas pris en compte les questions philosophique, les questions du sens de l'homme qui se posaient après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, rejet, discussion, débat. Et dans ces débats, on va aboutir à deux documents. Donc, le document dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'Humen Gentium, c'est-à-dire l'Église en elle-même. Comment elle se comprend? L'Église en elle-même, que dis-tu de toi-même ? Et puis il y aura un autre document, ce sera l'Église qui s'adresse au monde. Gaudium et Spes. Alors on a un moment employé le mot ad intra et ad extra. C'est un petit peu dangereux comme s'il y avait une barrière entre les deux. Il n'y a pas de barrière entre les deux, mais comme il y avait trop de discussions, on a préféré dire ben, disons quelle est la définition que nous avons de l'Église. Mais on ne peut pas dire ce qu'est l'Église si on oublie de dire qu'elle est faite pour s'adresser au monde. Donc, les deux documents, je ne vais pas dire ne font qu'un, mais ces deux versants, l'Église pour elle-même et l'Église obligatoirement tournée vers le monde. Seul exemple que je donnerai de biblique, c'est quand même Saint Jean. Il est venu chez les siens. Il a planté sa tente au milieu de nous. Alors, lorsque je dis qu'il a planté sa tente au milieu de nous, moi je pense toujours à l'église du Saint-Curé d'Ars, qui a la forme d'une tente. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ça vaut la peine que c'est cette inspiration de Saint Jean. Il est venu chez nous au milieu de nous pour s'adresser à tout le monde. Voilà. Deux secondes d'arrêt. Non, ça va. Les chaises sont agréables. Alors, arrivons maintenant à certains sujets de débat. Bon, j'ai fait ma petite sélection quand même. Église, société parfaite ou Église, communauté spirituelle ? Église, société ou Église, corps ? Corps du Christ. Ben, c'est une obligation de changer son regard. Si on quitte cette idée d'église structurée, de société et société parfaite, sur le modèle des sociétés humaines, on ne correspond pas à ce qu'a voulu un grand personnage comme Saint Paul. La première église, c'était communauté, fraternité. Et puis Saint Paul, à la suite du Christ, c'est l'Église, corps du Christ. Donc ce changement, mine de rien, a été objet de débat. Deuxième chose, mais qui n'est pas de l'ordre théologique, renoncer au triomphalisme. Pas si simple que ça. Deux exemples. La tiare, le pape qui arrive avec sa triple couronne, et Paul VI ne portera jamais sa tiare au cours de son existence. Un choix aussi, de ne pas dire, de dire, nous ne sommes pas le supérieur de tous les rois, etc., de l'humanité, on est d'un autre ordre, mais on ne portera plus ce signe distinctif de la triple, comment dire, royauté du pape. Autre chose, dans ce renoncer au triomphalisme, la sedia gestatoria, c'est-à-dire que le pape il est porté par 8 gardes suisses sur une chaise à porteur, et puis comme ça il peut voir, il est vu par tout le monde, il peut voir tout le monde. On l'a remplacé par un truc à 4 roues. Bon, mais là c'est autant pour des raisons de sécurité. Mais ce décorum où l'on voyait le pape avec des hommes qui agitaient des plumes, terminé. Ceux qui ont pu voir une vidéo retraçant sur le jour du Seigneur, une vidéo retraçant le concile, l'avant et l'après, on voit Paul VI à la première assemblée conciliaire qu'il préside, bon, avec tous les ornements qui montrent cette distance entre le pape et les participants, et à la fin, c'est pratiquement un évêque comme les autres. Il s'est dépouillé. C'est pas encore comme le disent les Philippiens, mais il s'est dépouillé de certaines choses qui étaient trop visibles et extérieures. Alors, en français, on a dit « il a dépoussiéré ». Et dans nos églises, on a aussi beaucoup dépoussiéré. Peut-être trop, mais ça, c'est l'histoire qui le dira. Donc, renoncer au triomphalisme. Une attitude universaliste et missionnaire. Lorsqu'on parlait des missions, on pense aux bons pères missionnaires qu'on envoyait en Afrique ou en Asie, plus en Afrique d'ailleurs. Donc les pères missionnaires, les missions. Et voici qu'un bouquin est paru qui s'appelle France, pays de mission. Alors il n'y a pas eu celui-là, mais c'est quand même courant pour dire, mais la France à son tour a besoin d'être évangélisée. Une nouvelle évangélisation, c'est pas toujours vite. Donc il y a 50 ans, on disait ça. Maintenant, France, pays de mission. Donc, lorsque le Concile parle de la mission, c'est aussi de la mission à l'intérieur des pays dits de chrétienté. Alors, ce qu'on va essayer de regarder maintenant, c'est le plan proposé Donc, qui commence par une église de Dieu, le mot peuple de Dieu qui doit faire problème. Au bout de 3 ans, le mot peuple a quasi disparu. On l'a remplacé par communion. Parce que le peuple se faisait un peu trop démocratique. Bon, mais dans les textes du Concile, le mot peuple de Dieu a été une nouveauté fort intéressante. Bon. Alors, dans cette église peuple de Dieu, je vous ai dit les baptisés, Dieu qui appelle tous les hommes par le baptême à entrer dans sa vie, certains sont ordonnés. Je vais y revenir dans un instant. Dernière question, sujet de débat. Et Marie là-dedans? Où on place Marie? Est-ce qu'on fait un traité à part pour Marie? Est-ce qu'on intègre Marie à l'intérieur de cette présentation de l'Église? Bon, ça n'a pas été si simple que ça. Finalement, l'argument, il l'a emporté. Je vous passe les détails. L'argument qui l'a le plus emporté, c'est mais si on fait un texte sur Marie à côté du texte sur l'Église, c'est que vous mettez Marie à côté de l'Église. Ah, c'est quand même embêtant de mettre Marie à côté de l'Église, donc il y aura un chapitre 8 consacré à la Vierge Marie. Il y a 3 semaines, donc 4 semaines maintenant, le pape Benoît XVI, qui recevait un congrès mondial de mariologie, a fait son homélie, si vous voulez, son homélie, son commentaire, uniquement sur le chapitre 8 de Vatican II, Lumen Gentium. Et une manière de dire, mais essayez de tenir compte de ce que les évêques ont dit. N'en rajoutez pas. N'en mettez pas trop, mais dites-en suffisamment par rapport à Marie. Sans oublier Marie, à la fois liée au Christ et Marie liée à l'Église. En refusant de dire que Marie est mère de l'Église. Donc un article dans la Croix d'aujourd'hui, Marie, c'est pas le Concile, ce ne sont pas les évêques qui ont dit Marie, mère de l'Église, c'est Paul VI, vu que cette motion-là n'avait pas été approuvée, qu'il l'a rajoutée de sa propre initiative. C'est les petits détails de l'histoire pour dire qu'il y aura toujours des choses compliquées à comprendre, mais aussi que les papes ont toujours envie de rajouter, au-delà du Concile, leur propre point de vue. Arrivons maintenant au texte lui-même. Donc, pour essayer de faire comprendre, j'ai mis 2 plans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir suffisamment, parce que c'est des petites lettres. Alors, le plan de 1963, qui est l'héritage du cardinal Ottaviani, qui a été rédigé à partir des questions soulevées dans les questionnaires préparatoires. Bon, ce texte comportait 4 chapitres. Premièrement, le mystère de l'Église. Deuxièmement, la structure hiérarchique de l'Église et en particulier l'épiscopat. Troisièmement, le peuple de Dieu et spécialement les laïcs. Et enfin, la vocation à la sainteté dans l'Église. Version définitive, d'abord on est passé à 8 au lieu de 4. Premièrement, le mystère de l'Église. Donc c'est le même titre, mais le contenu est un peu différent. Je vais lire ce mystère de l'Église, c'est-à-dire comment Dieu souhaite qu'existe son Église. Donc, premièrement, le mystère de l'Église. Deuxièmement, le peuple de Dieu. Vous avez vu l'image tout à l'heure? Et attention, il y a Dieu, Père, Fils, Esprit, non pas seulement Jésus, Dieu, Père, Fils, Esprit, et puis ceux qu'on appelle les simples fidèles, mais immédiatement, le peuple de Dieu est placé avant les évêques. Vous mesurez un peu le changement de dire il y a Dieu qui souhaite faire entrer les hommes dans sa communion, immédiatement on parle de tous les hommes qui entrent dans cette communion avec lui. Donc le peuple de Dieu. Dans ce peuple de Dieu, il y a des ministres ordonnés. Ordonnés à. C'est-à-dire qu'ils sont ordonnés au service du peuple de Dieu dont on vient de définir ce qu'il était. Moi, je trouve que c'est logique, d'autres n'ont pas apprécié. Dieu a voulu rassembler tous les hommes. Mais pour que ces hommes soient rassemblés, il y a besoin que parmi eux, certains soient ordonnés avec une responsabilité particulière. Très longtemps, on a dit le prêtre. Un tel était ordonné prêtre. Non. Ordonné à quelque chose. Sinon, on fait du prêtre, je ne sais pas comment dire, un saint des lois sur la terre. Un homme parfait. Bon. Le but de Vatican II, c'est de dire tout ministère est ordonné à quelque chose, à quelqu'un, etc. Retenez simplement ça, ça évite de parler des évêques ou des prêtres d'une manière absolue. Dans le peuple de Dieu, des hommes ordonnés à, je ne veux pas dire des femmes, c'est pas encore. Question réservée. Donc, la constitution hiérarchique de l'Église, et spécialement de l'épiscopat, donc il y a tout un chapitre très important, dans lequel je reparlerai un peu de la collégialité, s'il m'en reste du temps. Donc, la collégialité des évêques entre eux. Et quatrièmement, on va retrouver les laïcs. Les baptisés laïcs. Parce qu'il y a les baptisés prêtres, ministres ordonnés. Baptisés laïcs. Ensuite, il y a l'appel universel à la sainteté. L'appel universel. Tous nous sommes appelés à la sainteté. Regardez comme à gauche le chapitre 4, vocation à la sainteté dans l'Église et les religieux. Ce qui était premier, c'était les religieux. Ce qui est devenu premier, c'est que tout le monde est appelé à la sainteté. Rappelez-vous l'image que j'ai montrée tout à l'heure, il y avait les religieux qui étaient au-dessus, mais les religieux, ce sont des baptisés comme vous. Les religieux sont des baptisés. Ils ne font pas partie des ministères ordonnés. Donc, l'appel universel à la sainteté, et parmi eux, il y a un appel particulier pour les religieux, etc. Enfin, le 7, le caractère eschatologique de l'Église, ce caractère eschatologique a été ajouté parce que les pères du Concile trouvaient qu'on parlait beaucoup des fins humaines, hein, l'unité du genre humain dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, mais l'Église, elle est d'abord faite pour nous mener au ciel. Donc il y aura un chapitre pour donner droit à cette demande qui est juste sur terre, vers le ciel. Mais en parlant de la communion de l'Église du ciel et de l'Église de la terre. Ce paragraphe est intéressant, il a été rajouté pour faire comprendre qu'on est tous un même peuple. Et enfin, la Vierge Marie, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Alors là, j'ai rajouté quelque chose dans mes feuilles. Pour comprendre un peu l'objet du rejet de la première couture. Alors je vais vous lire deux textes, l'un de Mgr Elchinger, Strasbourg. Strasbourg, alors lui faisait toujours une messe du 14 juillet. Ça vous étonne, ça vous étonne pas ? Messe du 14 juillet avec présence du ministre des cultes ou du président de la République. Mais il ne faut pas oublier que la séparation de l'Église, de l'État et des Églises, eux ne l'ont pas connue. Ils étaient allemands avant. Donc ils vivent même encore aujourd'hui sous le principe du concordat. Donc le 14 juillet, il y a une messe officielle de l'Église catholique à Strasbourg pour. Voilà. Bon, c'est des petits détails, mais c'est un petit peu amusant, ça me réveille. Hein? Bien. Donc, je voulais vous dire un peu comment le Mgr Elchinger a parlé de ces mutations en cours. Alors, il résume l'évolution de cette manière. Hier, on considérait davantage l'Église comme une institution. Aujourd'hui, on la voit beaucoup plus clairement comme communion. Hier, on voyait surtout le pape. Aujourd'hui, on est en présence de l'évêque uni au pape. Hier, on considérait l'évêque seul aujourd'hui, les évêques ensemble. Hier, la théologie affirmait la valeur de la hiérarchie. Aujourd'hui, elle découvre le peuple de Dieu. Hier, elle mettait en avant ce qui sépare. Aujourd'hui, ce qui unit. Hier, la théologie de l'Église considérait surtout sa vie interne. Aujourd'hui, elle voit l'Église tourner vers l'extérieur. Une petite conclusion, tout en reconnaissant que le même esprit d'amour animait les deux conceptions, hier et aujourd'hui, on mesurait qu'il fallait distinguer sans séparer. Il ne faut pas dire les uns ont raison, les autres ont tort. Non. Il faut distinguer sans séparer, mais c'est faute d'avoir fait cet exercice qu'il y aura beaucoup de conflits ultérieurs sur est-ce que c'est pastoral, est-ce que c'est doctrinal. Pastoral, c'est-à-dire secondaire. Est-ce que c'est doctrinal, donc c'est l'essentiel qui y est dit. Ce sera une des causes des conflits, et plus tard, de Mgr Lefebvre qui va tout doucement prendre la tranquille. Pour changer d'évêque, Mgr Wigg. Mgr Wigg, c'est plus proche de chez nous. Alors, c'est dans le début du livre de Mgr Phillips qui avait fait ce texte avec les remarques qu'on lui demandait de prendre en compte, mais qui avait fait ce texte Lumen Gentium et qui a rédigé le commentaire qui va avec. Donc, Mgr Wigg estime que le schéma proposé doit être profondément modifié. Bon, je suis en dire profondément modifié. Il devrait en effet faire apparaître une Église toute pénétrée d'esprit évangélique, c'est-à-dire d'un esprit ouvert et universaliste, d'un esprit missionnaire, d'un esprit d'humilité et de service, un esprit ouvert et vraiment, entre guillemets, catholique. Nous ne vivons plus en chrétienté. Donc ceux qui se plaignent aujourd'hui, ils devraient retourner à 1960-62. Nous ne vivons plus en chrétienté. Les évêques se sentent responsables des incroyants comme des croyants. Et tous, collégialement, ils se sentent responsables du monde entier. Un esprit missionnaire, entre guillemets. Un esprit missionnaire, le souci de ceux qui sont loin est notre préoccupation première. Alors c'est quelque chose qui est flagrant dans les textes de beaucoup d'aumôniers, de beaucoup d'aumôneries, ceux qui sont loin. Ça a été un souci de l'Église, du diocèse, moi je l'ai vécu comme ça, je ne sais pas si vous avez ces souvenirs de telle phrase, ceux qui sont loin. On les retrouve. Ceux dont nous sommes loin. Ouais, l'inversion. Mais au point de départ, ceux qui sont loin. Et je pense que ça reste encore aujourd'hui. Ça doit apparaître de temps en temps dans les prières universelles. Ceux qui sont loin. Ça, c'est un souci nouveau qui est né au Concile. Non pas ceux qui habitent en Afrique ou en Océanie, mais ceux qui sont chez nous, mais loin de l'Église. Lorsque notre évêque demande de mettre en route les maisons d'évangile, il demande qu'on ne réunisse pas les gens qui se réunissent déjà, mais qu'on aille plutôt à la rencontre de ceux qui se réunissent pas, et donc ceux qui sont loin. Alors, il est insuffisant de traiter de l'esprit missionnaire dans un chapitre spécial, dit Gérard Wigg, c'est chaque page du schéma qui devrait exprimer ce souci. Car l'Église n'est pas seulement une société qui protège ses fidèles de l'erreur, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, condamnation, etc. Elle n'est pas seulement une société qui protège ses fidèles de l'erreur, elle est une communauté ouverte à de nombreux fils, un corps en croissance perpétuelle. Un esprit d'humble dévouement et de service, encore une fois entre guillemets, L'Église est présentée dans le schéma, donc le schéma premier, comme une puissance qui veut soumettre toutes les nations à son service. Cet esprit juridique et dominateur n'était pas celui du Christ. Point final de son intervention. Mais ça caractérise un peu tout ce, cette mouvance d'une Église qui se renouvelle d'abord de l'intérieur, mais qui en même temps pense à aller là pour ceux qui n'y sont pas. Donc je continue, si vous avez encore du courage. Donc, Lumen Gentium, méditation sur Dieu qui se donne. Donc, il faudrait ici que je vous donne les extraits. Vous avez fait une feuille à part pour les citations et pour que je les retrouve. Donc, dans le premier chapitre, le Christ est la lumière des peuples. Vous l'avez repéré tout à l'heure, lumière des peuples, Christ. Réuni dans l'Esprit Saint, le Saint Concile souhaite donc ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Dans la phrase que tout le monde connaît à peu près, l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. L'Église se propose de préciser davantage pour ses fidèles et pour le monde, ce sont les deux premières phrases du Concile, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. Tout est dit. L'Église en elle-même, l'Église en son rapport au monde, l'Église qui vient du Christ, l'Église pour l'union à Dieu, pour l'unité du genre humain, et l'Église qui définit sa nature et sa mission. C'est là-dessus que les intégristes vont bloquer, pas seulement la messe en latin, c'est un détail, ça c'est pour attirer le client, mais l'essentiel qui est rejeté, Monseigneur Lefebvre et d'autres ne sont pas d'accord avec la nature de l'Église définie par le Concile comme corps de Christ et non comme société hiérarchique, et d'autre part que sa mission universelle, c'est-à-dire de parler au-delà des chrétiens, de parler aux hommes du monde entier et de parler aussi d'entrer en dialogue avec les autres religions. La mission de l'Église, la nature de l'Église, objet de conflit. Bon, j'ai le titre dimension théologale, mot compliqué, je l'avoue, j'ai remplacé par le mot relationnel et non pas juridique. L'Église, les dimensions théologales, c'est l'Église, corps du Christ, et non pas l'Église d'abord société. Et le troisième paragraphe, l'Église issue du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'est ce que j'ai envie de vous dire maintenant. Donc, le paragraphe 2, le Père éternel, alors j'ai mis des points de suspension, parce que sinon, à 10h30, on n'a pas fini. Le Père éternel a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Je pense que vous êtes tous d'accord. Mais ça vaut la peine de commencer par le Père. Tout à l'heure, dans l'image, c'était le Christ. Voilà, le Père a décidé. Tous ceux qu'il a choisis, le Père les a distingués et prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église qui, etc. Troisième paragraphe, ainsi le Fils vint, envoyé par le Père, je passe sur la suite, vous connaissez l'Évangile par cœur, ainsi le Fils vint, envoyé par le Père. une fois terminé sa mission, il envoie l'Esprit qui sanctifie l'Église. Cette logique que je vous donne, un gros trait, le Père, le Fils, l'Esprit, une fois achevée l'œuvre que le Père avait chargé son Fils d'accomplir sur la terre, l'Esprit Saint fut envoyé, qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants, par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. C'est lui l'Esprit de vie, par qui le Père donne la vie aux hommes que le péché avait fait mourir, en attendant de ressusciter dans le Christ leur corps mortel. Ainsi, l'Église universelle apparaît comme, entre guillemets, un peuple qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Peuple, vous cadrez rien. Assez vite, hein, dans les textes du Concile. Voilà. Alors, pour continuer, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, l'Église, le mystère de l'Église sainte se manifeste en sa fondation, et quand Jésus, ayant souffert pour les hommes la mort de la croix, fut ressuscité, il apparut que Dieu l'avait fait Seigneur, Christ et prêtre pour l'éternité, et il répandit sur ses disciples l'Esprit promis par le Père. Vous avez les images qui sont employées, les images bibliques de l'Église. La fois dernière, j'avais déjà fait remarquer qu'on voulait, enfin, les pères du Concile voulaient revenir à la tradition dès les origines, pas seulement la tradition qui commence au XIe, XIIe siècle, mais qui commence avec les pères de l'Église, qui commence avec les trois apôtres et qui arrive avec Jésus-Christ. Donc il y a une volonté, un effort de reprendre à la source les textes de l'Écriture. Donc, pour les images de l'Église, ce sont automatiquement des images bibliques. Le bercail, le terrain de culture ou champ de Dieu, la construction ou habitation, c'est Saint-Paul, construction ou habitation, et il a habité chez nous, etc. Le temple, la notion de temple, notre corps, temple de l'Esprit, et l'Église, elle est temple de Dieu. La demeure de Dieu chez les hommes, ça c'est du Saint-Jean. La demeure de Dieu chez les hommes. La Jérusalem d'en haut, pensez à l'Apocalypse. Ou bien alors l'épouse de l'agneau, c'est encore l'Apocalypse. Le corps de Christ, c'est Saint-Paul. Donc ce sont toutes des images qui sont répertoriées, si vous voulez, dans un paragraphe du premier chapitre du Concile. L'Église, qu'est-ce que c'est? Non pas une société, bercail, terrain de culture, ou est-ce qu'on voit avec les définitions qui ne sont pas assez juridiques? Vous sentez les conflits qui peuvent naître. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot bercail? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot corps du Christ, Jérusalem d'en haut? Voilà, source de conflits, mais ensemble, ces évêques réunis au Vatican ont voté, après bien des difficultés, ont voté ces textes à la quasi-unanimité. Donc, nous aujourd'hui, eh bien, nous devons les recevoir et les apprécier à leur juste valeur, comme étant le fruit d'une Église rassemblée au souffle de l'Esprit Saint. On continue? Bon, je n'ai pas tout dit du premier chapitre, mais je crois que là, l'essentiel y est fait. Alors, Lumen Gentium, chapitre 2. Il me reste 5 minutes pour terminer. Je n'arriverai pas. Donc, c'est là qu'il y a eu des grands changements. Je l'ai décrit comme peuple de Dieu, sacerdoce commun. Où est-ce qu'on va avec sacerdoce commun? De tous les baptisés. La dignité des baptisés. C'est un résumé en trois mots, quelque chose qui a pris plus de temps pour être exprimé. Vous l'avez senti dans le chapitre précédent, Dieu a voulu rassembler tous les hommes, il offre sa vie divine par le baptême. Donc ce qui était logique de dire, ben, tous les baptisés sont rassemblés avec une égale dignité, le mot égale dignité est important. Alors où on met les évêques et les prêtres, si on dit que c'est avec une égale dignité? Ah, mais il y a des feuilles qu'on s'est collées il n'y a encore pas longtemps pour dire qu'on était des gens très différents. Il y a les vrais, puis en dessous, et là, il... Donc, j'insiste pour dire, c'est bien le Concile Vatican II qui dit l'égale dignité des baptisés. J'ai mis paragraphe 10, paragraphe 11, paragraphe 12, parce que ça vaut quand même la peine de revenir au texte officiel. Donc, paragraphe 10, pardon. Les baptisés par la régénération, c'est-à-dire le baptême et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui des ténèbres les appelait à son admirable lumière. Bon, on m'arrête là. Vous avez un peu senti sacerdoce. Offrir le sacrifice, offrir toute la vie, et puis la dernière chose était porter témoignage, proclamer les merveilles de celui qui les a appelés. Là, c'est la fonction de prophète, hein, roi, prêtre, prophète. Alors je vais un tout petit peu plus loin. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, bien qu'il y ait entre eux une différence essentielle et non seulement de degrés, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. Ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Vous comme moi. On participe de l'unique sacerdoce du Christ. Alors, où est-ce qu'on va si on a supprimer ce type de distinction. Alors, bon, j'arrête là. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel, etc., etc. Alors, vous pourrez trouver des phrases qui disent presque le contraire. Alors, certains, comme moi, j'insiste sur ce passage-là, puis on peut aller chercher un autre texte qui dit des choses presque, je ne vais pas dire opposées, mais on pourrait les comprendre dans l'autre sens. D'où les conflits d'interprétation après le concile. Je n'entre pas dans ces conflits d'interprétation parce que là, il faut les bouquins, les textes officiels et les discussions qui ont préparé la rédaction du texte. Autre chose, paragraphe 11. Les fidèles incorporés à l'Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien. Qui c'est qui est délégué au culte normalement ? Les prêtres, tout le monde, tous, de par le baptême, ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien. Devenus fils de Dieu par une régénération, baptême, ils sont tenus de professer devant les hommes la foi que, par l'Église, ils ont reçue de Dieu. Professer, c'est le témoignage, c'est le prophète. Alors, est-ce qu'on va? Vous sentez un petit peu que, mine de rien, ces textes qu'on a eu du mal à comprendre, qu'on a oubliés, aujourd'hui sont à retrouver et à mettre en œuvre pour confirmer notre dignité de laïc. Ah oui, la phrase suivante, il y a ILS, et puis je l'ai entouré, je n'oublie pas de vous le dire. Participant au sacrifice eucharistique. Ça va jusque-là ? C'est pas compliqué ? Source et sommet de toute la vie chrétienne. Tout le monde insiste sur source et sommet, moi c'est pas là-dessus, c'est sur la suite. Ils, au pluriel, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Non mais vous sentez la force de cette phrase ? Alors on a préféré insister sur source et sommet, ça ne gêne personne. Mais de dire que vous, avec le prêtre, vous offrez à Dieu Jésus-Christ sur l'autel, où est-ce qu'on va? Ah, je ne peux rien, c'est pour moi qui l'ai voté. Mais je vous le signale quelquefois parce qu'on dit tellement et tellement de choses pour montrer que seul le prêtre se signe. Non. Alors je relis la phrase, vous la reviendrez par cœur. Participant au sacrifice eucharistique. Participant, pas assistant. Participant. Au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils, vous, ils, offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle, etc., etc. Ah oui, qui est-ce qu'a la vérité? Qui est-ce qu'a la vérité? Encore une autre phrase, après je vais refermer mon livre sinon. Donc, la collectivité des fidèles ayant l'onction qui vient du Saint, du Saint-Esprit. Donc, ayant l'onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi. Ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste par le moyen du sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier. Lorsque, des évêques jusqu'au dernier des fidèles laïcs, elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel. Il n'y a pas ceux qui ont la vérité et puis on hérite, mais ensemble, on est responsable de cette vérité, ce qu'on va appeler dans l'Église d'un mot latin le sensus fidei, le sens de la foi. Bon, il y a des intuitions que vous avez qui méritent d'être connues plus haut. Voilà. Bon, j'entre dans des problèmes techniques après. Alors, je quitte ce chapitre 2 pour arriver au chapitre 3. La constitution hiérarchique de l'Église, et spécialement l'épiscopat, successeur des apôtres. L'épiscopat successeur des apôtres, pas Pierre, et le pape successeur de Pierre, mais il y a un collège des 12 à qui Jésus a confié son Église, les 12, ou les 11, parce qu'on n'est resté que 11. Ces 12 à qui a été confiée cette Église, eh bien, les évêques ensemble sont les successeurs du collège épiscopal, du collège des apôtres. Et non pas pape, Pierre, Saint-Jacques, etc. Non, c'est l'ensemble du collège et génération d'après, l'ensemble des évêques autour du pape, et je vous ai écrit subordonné ou autour du pape. Vous vous souvenez, les évêques aident. Non, ils aident pas. Avec lui, il participe à la responsabilité qui est celle de tous les apôtres. Donc, responsabilité collégiale, paragraphe 23, normalement, l'Église de France devait être collégiale. Il y a la conférence des évêques. Mais on a vu les collégialités à propos du directoire qui a été voté en 2005 sur la nouvelle catéchèse. Ça a été voté là-bas, mais chacun il fait ce qu'il veut dans sa paroisse, dans son diocèse. Demandez actuellement, il y a le projet diocésain de catéchèse, nous on a 10-10-10, on l'a voté, mais il n'y a que 50% des diocèses qui ont réussi à faire ce projet diocésain de catéchèse. D'abord, ça n'est pas fait au niveau national, bon, c'est peut-être pas plus mal, mais les directives, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Bon, j'ai pris ce petit exemple de la catéchèse pour dire, mais pour toutes les décisions de France, c'est des décisions, ben, la collégialité est assez peu sensible. Bon, l'histoire du mariage qui est mis en valeur par le président de la République. Vous avez eu une conférence, d'abord une prière, à la demande de l'évêque de Paris, pour tout le monde. Ensuite, il y a eu une conférence de presse de la conférence des évêques où il y avait une immense table et seul Mgr André 23 parlait aux journalistes. Il y avait dans un coin Mgr Potvin, le secrétaire officiel, mais dans un coin. Puis le lendemain, bien le surlendemain, il y a l'évêque de Lyon qui a donné son point de vue. Et puis après, il y a Mgr Decour qui est intervenu. Et donc, est-ce qu'on peut parler de collégialité dans cette cacophonie? Bon, ce qui veut dire que le mot collégialité est difficile à mettre en œuvre et qu'on a un certain nombre d'exemples. Alors, les ministres ordonnés, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je n'insiste pas là-dessus. Lumen Gentium, chapitre 4, les laïcs. Égale dignité entre laïcs et ministres ordonnés au titre du baptême, paragraphe 32. Je ne vais pas lire, j'ai plus le temps. Mais vous me faites confiance, hein. Égale dignité. Alors, lorsqu'on met le prêtre au-dessus du pinacle, je pense qu'on se trompe par rapport au désir de Vatican II. C'est pas parce qu'on a peu qu'il faut automatiquement les mettre au-dessus de tout le monde. Bien. Alors, j'insiste sur cette notion de participation aux trois fonctions ou services. Le culte, la fonction prophétique, le service royal. Alors, nous, on dira plutôt roi, prêtre, prophète. On pourrait mettre d'abord le prophète. Parce que, comme c'est rappelé dans le décret sur la liturgie, comment voulez-vous qu'on célèbre et qu'on offre quelque chose à Dieu si on ne commence pas par être enseigné, par recevoir l'annonce? Donc, ce qui est premier, c'est l'annonce. Et dans le rôle, le boulot des prêtres, la première chose, c'est d'annoncer l'évangile. Après de célébrer. Vous sentez, les mots sont mis dans un certain ordre et je suis sûr que ça a été étudié. Le prêtre, d'abord, a comme mission annoncer. Deuxièmement, célébrer, vivre le culte. Et troisièmement, tout ce qui est de la du service de la royauté, c'est-à-dire la direction du peuple de Dieu. Nous, on a une toute petite différence. Servir le peuple de Dieu, on dira plutôt le mot diaconie, est en vogue actuellement. Mieux, le service du frère, si vous voulez. Roi, prêtre, prophète, vivre, croire, célébrer. Ça, c'est ancré dans Vatican II, mais ça vient un peu de Congar. Et en même temps, Congar, il a fait son étude à partir des choses antérieures, vécues, véhiculées par un certain nombre de textes très anciens. 4, 5, 6. Ouais, je vais plus en plus vite. La vocation à la sainteté de tous les baptisés d'abord. Tout le monde, tous baptisés. Et des religieux et vocations particulières, chapitre 6. Ce n'est pas pour diminuer le rôle des religieux et religieuses, des ordres. Non, c'est pour dire, mais c'est à cause du baptême que tous nous sommes appelés par Dieu, avec une égale dignité. C'est le renversement. On est du même corps, le corps du Christ, avec des membres qui sont différents, qui font des choses différentes, mais c'est le même sang qui circule à l'intérieur. C'est le même esprit qui anime ce corps du Christ. J'en dis pas plus, la vocation à la sainteté de tous les baptisés et des religieux. Alors j'ai remis le chapitre Lumen Gentium, chapitre 7, le caractère eschatologique de l'Église en marche, et son union avec l'Église du ciel. J'en dis pas plus, mais il faudrait repasser du temps sur la communion avec les saints du ciel, etc., etc. Mais ça a été rajouté fort heureusement. Et j'en arrive à la fin. Quand même. Donc, Marie, alors le titre, c'est Marie dans le mystère du Christ et de l'Église. Tout est compté. Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, les deux ensemble. Il y a un seul Rédempteur, je ne sais pas si j'ai mis ça, je ne l'ai pas mis. Il y a un seul Rédempteur, le Christ. Il y a un seul Médiateur, le Christ. Alors peut-être que vous avez dans vos oreilles Marie co-rédemptrice. Refusez. Au titre des textes des Évangiles, il y a un seul Rédempteur intermédiaire entre Dieu et nous, c'est le Christ. Marie n'est pas un intermédiaire, désolé. Alors je le dis avec des brunes, mais non. Lorsque Jean-Paul II il fait mettre en l'an 2000 une statue de la Vierge Marie devant la basilique de Nazareth, alors Marie qui envoie toutes les grâces, et qu'il y a de l'eau qui coule comme ça, on voit mieux que l'eau coule des mains de Marie, je regrette, c'est pas très conciliaire. Pour voir cette image-là, Dominique, cette représentation, elle est fort généreuse. C'est vrai que Marie a une place privilégiée, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le chant « Marie, la première en chemin ».« Marie, la première en chemin ». Et lorsque ce chapitre 8 demande de prier comme Marie, alors est-ce qu'il faut appeler Marie reine ou Marie servante? Alors ce mot de Marie-Reine va plus ou moins disparaître. Sauf dans la rue diocésaine de Cambrai, qu'on a encore reparlé il y a 15 jours. Sauf à son Marie, servante, l'Évangile dit « Je suis la servante du Seigneur » et non pas « Je suis la reine du monde ». C'est beau, c'est gentil. Vous voyez un petit peu la difficulté de séparer notre affectivité de la réalité théologique. Alors, si je vous touche à votre affectivité, vous avez raison de réagir, mais le but que j'ai ici, c'est bien de donner des définitions théologiques. Alors, sinon, pour l'affectivité, il faut reprendre tout ce qui a été dit depuis 1850 jusqu'à 1950. Hein? Y compris les pressions. Les pressions qui ont été faites sur le pape pour définir ceci, définir cela. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Marie, mère de l'Église. Les pères du Concile n'ont pas souhaité intégrer mère de l'Église dans leur texte. Donc, le pape a rajouté un bref. Bon, c'est un brave pape quand même. Donc, retenez Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, pas Marie toute seule. Si j'avais encore le temps, je vous dirais toutes les représentations de Marie depuis les années 350, 400, où c'est Marie qui porte le Christ. Je pense au vitrail de Chartres, au très beau vitrail. Il y a Marie qui présente, sur le vitrail bleu, qui présente son fils au monde. Ce vitrail, il est sensationnel. C'est bien la mission de Marie qui nous donne Jésus, et non pas qui prend la place de Jésus. Regardez nos statues. Bon, si j'ai vexé quelqu'un, vous avez le droit de venir me trouver. Donc, les débats pour insérer Marie dans la Constitution, je l'ai dit. Les groupes d'influence et de pression. Il y a eu 8 millions de lettres qui ont été envoyées pour la définition de l'Immaculée Conception. Voilà. Bien. Alors, le culte de Marie et la mariologie récente, l'invitation du Concile, c'est une reconversion de la doctrine mariale dans laquelle il y a appel à la prudence et appel au fondement biblique. Parce que pendant un siècle entier, il y a eu expansion des mots, porte du ciel, ceci. Tout est beau, tout est gentil, mais j'essaie de donner une définition théologique et non pas une définition affective et sensible. Bon, j'ai envie de dire que j'ai terminé. Je ne vais pas lire le texte sur Marie, je crois que je l'ai mis dans le dernier Église d'Arras ou l'avant-dernier. Donc, Église. Que dis-tu de toi-même, ce que j'avais dit au début, pour être complète, la présentation de l'Église dans l'Humen Gentium suppose qu'on lise aussi ce que le Concile dit de son rapport au monde. C'est l'objectif de la Constitution Bonum et Spes. À suivre.
Les questions, le père Hénard va essayer d'y répondre. Alors la première question, c'est toujours la plus dure. Y a-t-il des questions dans la salle?
C'est pas réellement une question, c'est simplement que je veux souligner l'action de l'Esprit Saint, parce que après tout ce que vous avez dit, les évêques et avec eux, la hiérarchie, ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. Et s'il n'y avait pas eu l'Esprit Saint, ça aurait peut-être pas été comme ça.
Sur cette affirmation, le dernier livre de John O'Malley, il est un éclairant, parce que lui, il ose dire des choses qu'on n'aurait pas dit il y a 30 ou 40 ans. Parce que quand même, un certain nombre d'évêques qui ont dit, mais vous allez scier la branche sur laquelle on est. C'est vrai. Mais si on veut être fidèle à Jésus-Christ et aux évangiles, on ne peut pas dire autre chose que Jésus-Christ qui allait par les les monts et les vallées et qui pardonnait sans condamner personne, etc. Je vais même plus loin, je repense à le pape et puis Saint-Pierre. À Saint-Pierre, confie l'Église, etc. Tu lis sur le lier et le délier, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu. Mais un chapitre plus loin, c'est l'Église qui a mission de lier et de délier. Si ton frère, etc., va le trouver en privé, si ça ne marche pas, va avec plusieurs. Si ça ne marche pas, va trouver l'Église et l'Église va lier ou délier. C'est pas Saint-Pierre tout seul. Mais ça, on l'a caché.
Une expression qu'on a entendue beaucoup dans notre jeunesse et que tu pourrais interpréter, hors de l'Église, pas de salut.
C'était clair, il y a nous et les autres. Le judaïsme était basé là-dessus. Il y a nous, les juifs, et les autres. Lorsqu'on voit un certain nombre de textes, il y a les nations. Lorsque Jésus est destiné aux nations, ça veut dire toutes les nations païennes, parce qu'on n'a qu'une nation, la nation juive. Et il y a les autres nations qui sont toutes des nations païennes. Donc là, une distinction, un modèle. Or, saint Paul nous dit, désormais, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, etc., etc. Alors, je me demande, qu'est-ce qui est le plus fidèle à l'Évangile, hors de l'Église, point de salut, où désormais, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni hommes libres, ni esclaves. Tous, on est un en Jésus-Christ. Je ne peux rien dire d'autre. Évoquer des souvenirs aussi.
Les chaises seraient-elles trop confortables?
J'ai peur de dire une bêtise, mais tant pis si je le dis. Il me semble souvenir que dans le chapelet, il y a des mystères qu'on appelle les mystères glorieux. Mm-hmm. Et dans le mystère glorieux, il y en a un petit poème qui s'appelle le couronnement de Marie. Mm-hmm. Alors qu'est-ce qu'on va faire?
Il ne faut pas le supprimer. Le couronnement de Marie, je repense à la crypte. L'image, elle était il y a un mois dans l'église d'Arras, à la crypte de la Dormition, et donc à l'Annonciation, comme Copiste a écrit. Donc, Marie, dans cette crypte, où on la voit assez notable, quoi, sa statue est représentée comme les gisants, tout en disant Marie est montée au ciel. Et on a sur une des ogives, on a Jésus qui porte Marie comme un bébé. Marie qui est enveloppée de l'ange ou du drap mortuaire, comme vous voulez, mais on a vraiment le Christ en grandeur nature et Marie comme un petit enfant que Jésus emporte au ciel. Et c'est à partir de cette manière de représenter Marie accueillie au ciel à la suite du Christ qu'on va voir toute cette notion de Marie couronnée par le Seigneur. Mais c'est autre chose de dire Marie au ciel, etc., couronnée par le Seigneur, et de dire désormais c'est Marie l'intermédiaire entre Jésus et nous. Voilà la nuance. Mais Marie couronnée, je crois, c'est rendre honneur Vierge Marie, de même que le Christ, d'après la tradition, a rendu honneur à sa mère. Alors, par rapport à Marie, il y a aussi une invitation à prier comme Marie, et en particulier prier le Magnificat. Du début jusqu'à la fin, c'est une action de grâce pour toute l'œuvre de Dieu auprès de l'humanité de son peuple. Donc, c'est important de savoir que nous sommes invités à prier comme Marie, avec Marie. Et puis, autre chose, mais j'ai déjà oublié. Je reviens, je vais retirer après.
On dit que les consignes ne doivent pas se contredire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une telle différence entre Vatican II et le Concile de Trente qu'on ne peut pas maintenir cette position?
L'un est très différent de l'autre. L'un est très contestataire dans un climat de conflit. En particulier le conflit qui est hérité de la réforme, donc l'église de la contre-réforme. D'un côté, le Concile de Trente durcit des positions, mais d'un autre côté, ceux qui ont préparé Vatican II avaient des positions encore plus dures que le Concile de Trente. Bon, je vous donne un exemple, l'église. De où elle vient? Concile de Trente disait que l'Église vient de l'Évangile du Christ, de la parole du Christ et de la tradition. Mais en mettant bien en premier, l'Église vient de l'Évangile. Les pères qui ont préparé, la commission qui a préparé, mettaient quasiment à égalité, l'Église vient de deux sources. L'une, c'est l'Évangile. De l'autre côté, c'est la tradition, même avec un T majuscule, de dire la grande tradition, mais mettant à égalité la parole du Christ et la tradition. Et ça, les évêques l'ont refusé en disant on ne peut pas aller plus loin que ce que le Concile de Trente a dit. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à une source plus sûre, il y a une seule tradition, c'est l'Évangile. Et ensuite, à respecter, c'est ce que l'Église tire de cet évangile. Mais mettre à égalité l'évangile et l'enseignement de l'Église, ça a été rejeté. Donc, pour vous dire que c'est assez compliqué, il y a des choses qui sont opposées, parce que c'était une certaine époque, mais il y a aussi des choses que le Concile de Trente n'a pas dites et qu'on lui a fait dire. Il y a des choses qu'il a demandées, comme par exemple qu'on puisse célébrer dans la langue du pays, qui n'ont pas été appliqués. Donc il faudrait tout reprendre, mais normalement il n'y a pas de contradiction, il y a des évolutions. Voilà.
Remarque en même temps, en écoutant le Père Hénard sur le chapitre 2 de tout à l'heure, peuple de Dieu, sacerdoce commun, baptisé, délégué au culte, je me dis, nous avons bien mal compris. Cette évolution. Et je crois qu'on a encore du chemin à parcourir pour arriver à des célébrations qui correspondent bien à cet aspect du concile. Je pense à la fois la liturgie et l'aménagement des églises, où on ne donne pas cette place, je pense notamment à la célébration de la parole, où on trouve l'ambon collé contre l'autel, des questions à se poser. Je pense aussi à la façon dont on lit et on restitue les lectures vis-à-vis de nos frères qui sont à l'écoute, et puis peut-être aussi au chant, mais là je ne suis pas compétent, donc je ne dirai rien, mais certains chants m'interrogent par rapport à la liturgie.
Tout d'abord, je voudrais pas rectifier, mais préciser, ça ne veut pas dire que les laïcs sont comme les prêtres. Par rapport à la célébration eucharistique, tous nous sommes appelés à célébrer ensemble, mais le prêtre a une place particulière, c'est au nom du Christ. C'est pas seulement comme baptisé, mais c'est bien au nom du Christ qu'il célèbre. Donc sa place n'est pas la même que celle des autres baptisés fidèles. Donc, c'est important de maintenir cette distinction, sinon on fait de la confusion et on en arrive au protestantisme où il n'y a plus de ministre. Non, il y a un ministre, et j'ai bien précisé, ces ministres sont ordonnés au service du peuple de Dieu, pour qu'ils remplissent toutes les fonctions qui sont celles de tout le monde. Roi, prêtre, prophète, faire ça. Vivre, croire, célébrer. Mais le prêtre, à certains moments, le fait au nom du Christ. Ça me semble important à retenir. Maintenant, dire qu'on a tiré toutes les conséquences du concile, je dirais non. Je dirais aussi qu'il y a eu des retours en arrière. Je demandais, mais je ne sais plus si c'est à Michel ou à quelqu'un d'autre, où se trouve aujourd'hui la Bible dans nos églises. C'est au cours de la journée sur la liturgie. De fait, tout de suite après le concile, on a mis en valeur la Bible, à un endroit bien particulier. Souvent, c'est au milieu du peuple. À la chapelle, ici, à la maison diocésaine, vous avez la Bible qui est au milieu des allées. Si vous allez à Notre-Dame de Pentecôte, à Paris, hein, bien, sur la dalle de béton, il y a tous les trucs financiers, etc., vous avez aussi, d'un côté, l'autel, de l'autre côté, la parole, et puis tout autour, vous avez l'assemblée. Mais aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que la Bible, on la met dans un coin, il faut attendre des grandes célébrations avec l'évêque et puis le diacre, pour qu'un diacre porte tout haut le... Mais cet intérêt porté à la parole de Dieu, visiblement dans l'espace sacré, a tendance à disparaître. Je ne sais pas si c'est des choses comme ça auxquelles tu penses.
Alors, vous avez bien montré la grande évolution qui s'est faite entre Vatican I et Vatican II, et notamment sur la place des laïcs. Mais est-ce que vous ne croyez pas encore que malgré tout, il y a encore la hiérarchie qui gouverne encore peut-être beaucoup trop et que les laïcs ne sont pas forcément toujours suffisamment associés aux grands problèmes, disons, de société, mais aussi dans la vie de l'Église, qu'il pourrait y avoir davantage de participation, de collaboration par ailleurs?
Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais partisan. Je reste partisan et donc dit oui, il n'y a pas assez cette participation des laïcs, des fidèles laïcs, dans la gestion de l'Église. Les évêques ont un peu trop leur carré, encore que normalement il y a des conseils, à condition que les conseils, ça ne soit pas seulement donner de temps à autre son avis. Et là, il y a une difficulté. On a la même chose à l'intérieur des EAP. Comment se vit le rapport entre le prêtre, puisqu'il y a un prêtre par paroisse, et les membres chargés de veiller à la vie de la communauté. À tous les niveaux, il y a un travail, un effort, un progrès, mais dans certains endroits, le prêtre, c'est celui qui dirige. Non, c'est plus celui qui dirige. Je réponds peut-être un peu vite, mais j'aurais voulu dire sur la place des laïcs, est-ce qu'on arrive à s'imaginer comment étaient les célébrations des funérailles il y a 50 ans? Bon, mais il n'y a pas que ça. Hein. Je ne voudrais pas donner la valeur en disant les laïcs sont là pour célébrer les funérailles. Mais voilà une manière d'être. Combien de prêtres font encore la catéchèse aujourd'hui? Ou de religieux ou religieuses? J'ai l'impression que le Concile était en avance d'un train sur la participation des laïcs. Ils ont pensé à cette participation des laïcs avant que réellement le problème existe, tout au moins chez nous, attention. Je ne peux pas parler du monde entier. Où le prêtre passe une fois tous les 3 mois, 6 mois, ou même parfois une fois tous les ans. Voilà.
On a parlé beaucoup de collégialité là, dans l'exposé tout à l'heure. Et je pense pas qu'on puisse dire que la collégialité épiscopale a beaucoup fonctionné ces dernières années, puisque beaucoup de critiques sont intervenues par rapport à notre pape actuel, qui s'est prononcé dans des décisions en catimini. Par exemple, quand il a levé l'excommunion des 4 évêques ordonnés par l'intégriste Marcel Lefebvre, lorsqu'il a installé une communauté toujours intégriste à Bordeaux, sans que l'évêque de l'époque, M. Ricard, soit au courant. Or, depuis quelque temps, je me demande quand même s'il n'y a pas une petite évolution. Il y a quelques semaines, Benoît XVI, devant un groupe de, je ne sais plus si c'était des jeunes ou des membres de l'Action catholique, a déclaré ceci: les laïcs ne doivent pas être considérés comme des collaborateurs des pasteurs, mais ils doivent être considérés comme co-responsables de la vie de l'Église avec les pasteurs. Alors la question que je pose, est-ce qu'il y aurait une certaine petite évolution à l'heure actuelle dans l'attitude du pape pour donner plus d'importance à la fois à la collégialité épiscopale, mais aussi à la place des laïcs dans la vie de l'Église. Pas pour être, pas dans l'Église pastorale, mais dans l'Église qui prend des décisions, car les laïcs ont de la place dans l'Église pastorale, mais sont peu associés aux décisions importantes de l'Église. Or, comme on a vu le schéma, on voit que le peuple de Dieu, le peuple des basilés, reprend une place importante dans la structure de l'Église, peut-être qu'on peut peut-être espérer, là, ces derniers temps, qu'il y aurait une évolution. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette évolution.
Ben, la phrase que tu viens d'évoquer est plus vieille que tu penses. Elle est d'avril 2010. Ça fait déjà 2 ans. En avril 2010, devant ses prêtres diocésains, parce que le pape est évêque de Rome, donc devant les prêtres de Rome, c'est à eux qu'il a dit « Considérez les laïcs non pas comme... mais comme co-responsable de votre Église. » Ça veut dire qu'il y a déjà un certain temps qu'il a eu une certaine évolution. Ensuite, j'ai l'impression aussi que depuis un an, une dizaine de mois, il y a des changements qui se passent. Alors, j'ai pas d'analyse complète, mais je dirais tout simplement, Ratzinger, en 1968, a eu peur de l'évolution de la société. Dans la mesure où mai 68 a fait une espèce d'explosion, et dit, vous voyez à quoi ça sert de donner la liberté, etc., etc., on ne sait pas où on va, et donc ça fuit de tous les côtés, on ne sait pas quoi faire. Donc, Ratzinger a fait partie des évêques qui étaient un petit peu au frein, qui ont eu peur, qui ont pris peur de l'évolution du monde. Il n'était pas le seul. Ensuite, il était chargé des discussions avec Mgr Lefebvre. Et personnellement, lorsqu'il y a eu le schisme en 1988, pour lui, c'était un échec personnel. Donc il a toujours porté sur lui cet échec dans la discussion avec Mgr Lefebvre. Et lorsqu'il était à la succession de Jean-Paul II, son premier désir, c'était de réconcilier l'Église, de supprimer, de faire la fin de ce schisme. D'où un certain nombre de choses qu'il a fait en disant si, donnant, je ne sais pas comment dire, enfin, je n'ai pas toutes les tractations internes, mais même la messe en latin, revenir à la messe de Pie V, est-ce que ce n'était pas une manière d'espérer un pas de l'autre côté? Il n'y a jamais eu aucun pas de l'autre côté. Et depuis quelques mois, Mgr Fellé essaie de faire traîner les choses, parce que les 2 autres évêques ne veulent pas cette réconciliation avec Rome, alors que lui le souhaite. Mais comme ils sont en train de se démolir entre eux, excusez-moi, hein, comme il y a des grosses tensions et explosions au sein des groupes qu'on conservateurs ou des groupes lefébristes, il semblerait que le pape ait un peu plus de liberté de parole, j'ai bien liberté de parole, par rapport à son projet de réconciliation. Il y a 5 ans, c'est au mois de juillet, il a nommé auprès de lui un évêque pro-théologie de la libération, proche de Gustavo Thiérèse, qui est en Amérique latine. Donc, ça veut dire que prendre auprès de lui quelqu'un qui est contre, enfin, qui est pour un courant théologique qui a toujours été rejeté par le Vatican, en principe, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a des petits signes. Lorsqu'il y a eu cette rencontre, ce colloque mondial de mariologie à Rome, il y a 3 semaines, il a repris pratiquement textuellement le concile, le chapitre 8 du concile. Ce texte sur la place des laïcs, il est plus attentif qu'il ne l'a été autrefois. On a le droit d'espérer.
Dans les textes de Lumen Gentium, on dit que l'Église est peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a équivalence ou une différence avec peuple des baptisés?
Enfin, tous les baptisés sont le peuple de Dieu. C'est pas vrai. Donc, je ne sens pas la différence entre peuple de Dieu et peuple des baptisés. C'est la même chose. Dieu appelle et tous les baptisés répondent ou ne répondent pas. Ensuite, le monde entier, est-ce qu'on peut dire qu'il est peuple de Dieu si eux-mêmes n'entrent pas dans cette église? Bon. Ou j'ai mal compris la question?
Est-ce qu'il y a équivalence entre les deux formules, peuple de Dieu et peuple des baptisés? Peuple de baptisés, c'est réducteur. Peuple de Dieu, c'est ceux qui vivent l'esprit de l'Évangile et qui ne sont pas forcément encore baptisés.
On peut le dire comme ça. Alors, tu poses une colle, mais une colle autrement, c'est que fidèle aux images de l'Évangile, les évêques ont aussi choisi plusieurs formulations et non pas une formulation doctrinale ferme. Il y a souvent plusieurs choses qui se complètent l'une l'autre. Peuple de Dieu, peuple de baptisé, j'éviterai de bloquer comme ça. Sinon, on va en revenir à ta question de tout à l'heure, à savoir hors de l'Église, moins de salut.
Oui, mais c'est une hérésie que je crois que le peuple de Dieu, c'est le peuple des humains créés par Dieu.
Oui.
C'est une hérésie. Vous restreignez le peuple de Dieu au peuple appelé, baptisé, ou qui participe, mais toute créature est peuple de Dieu quand même. Même si elle n'est pas baptisée, même si, en tant que créature de Dieu, elle forme le peuple de Dieu.
Dieu s'y intéresse. Mais lorsqu'on dit peuple de Dieu...
Vaut mieux dire peuple choisi, mais peuple de Dieu, c'est tout le monde.
Peuple de Dieu, c'est ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Donc moi, je n'irais pas trop vite de mettre tout le monde.
Mais je trouve que quand on dit qu'il faut lutter contre le triomphalisme, dire ça, c'est du triomphalisme. Puisqu'on a répondu, on est peuple de Dieu. Mais avant, il y a la création quand même. Toute créature de Dieu... Et les créatures ensemble sont peuple de Dieu, quand même. Non? Enfin, je ne sais pas. Mais moi, je crois ça. Alors, si je suis hérétique, tant mieux. Mais c'est quand même important, la création. Et tous les hommes qui sont créés. Alors, on peut dire peuple choisi, ça, je comprends. Et puis, qui a répondu. Mais peuple de Dieu, c'est pour tout le monde, pour moi.
Ce qui est important, c'est de laisser à chacun la liberté de sa réponse. Tout dépend de quel côté. Quelqu'un peut dire « je suis du peuple de Dieu, mais je ne fais pas partie du peuple de Dieu, je refuse le baptême, etc. » Donc il y a une prudence à avoir. La prudence, c'est la réponse, la liberté de répondre ou d'être en attente. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aimés de Dieu, ce n'est pas la même chose.
Même les textes de dimanche dernier, ils disaient bien que ceux de l'extérieur, ils sont appelés aussi à annoncer et à être ce peuple.
question, parce que leur tour,
quand on parle aussi du peuple de racheté, pour reprendre des expressions, dans pas mal de prières eucharistiques, on prie pour le pape, les évêques et le peuple des rachetés. Comment on pense? Est-ce qu'on ne peut pas dire le peuple des baptisés plutôt? Ça fait un peu péjoratif, je trouve.
C'est pareil. Enfin, c'est, je veux dire, c'est pareil. Dans le texte que j'ai lu tout à l'heure plusieurs fois, par la régénération. Régénérer, c'est d'une autre manière, mais c'est les baptisés. C'est-à-dire, il y a plusieurs expressions différentes. On est racheté parce qu'on entre dans le salut en Jésus-Christ par le baptême. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas rachetés. Ça, c'est du domaine entre Dieu et ses personnes. C'est pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance au temps du catéchuménat, avec l'entrée en catéchuménat, et l'insertion dans l'Église par le baptême le jour de Pâques. Peuple des rachetés, ou peuple des baptisés, c'est pareil. Leur tour, là.
Leur tour. Ah, juste une question, là, parce que sinon...
On prononce le mot catéchuménat. Je pense que le catéchuménat, c'est pas d'abord... Une instruction que l'on fait. Mais on est témoin que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un homme, d'une femme qui n'est pas baptisée, mais qui a rencontré Jésus-Christ. C'est ça. Et un jour, on pourra, il sera baptisé, peut-être.
Mais dire qu'ils sont le peuple de Dieu, tout dépend, laissons-le leur l'occasion, le moment pour le dire eux-mêmes.
Bien, je crois qu'on va, conclure, sauf s'il y a une question vraiment à laquelle il fallait absolument répondre. Un grand merci au Père Hénard, et puis on va essayer de mettre tout le monde d'accord entre le peuple des baptisés et le peuple de Dieu. On va parler du peuple du partage, comme ça. remercie à tous d'être venus participer à cette présentation. Donc, pour vous rappeler, effectivement, le 6 novembre, la prochaine présentation qui sera en fait faite par le Père Hénard, et aussi, surtout, rappeler le 14 octobre, pour donc là, le Père Évêque nous invite tous à la cathédrale pour fêter le 50e anniversaire de l'ouverture du concile.
Donc il y a une conférence qui sera donnée par un jeune historien universitaire, et sa conférence, qui fait 36 pages dans l'église d'Amas, sera donnée à tous ceux qui y sont. Après, on pourra en avoir s'il en reste. Je veux dire qu'on pourra relire en long et en large toute cette histoire, mais 36 pages.
Alors, juste un petit dernier mot. Si vous avez été tous contents des chaises, qui sont toutes neuves, n'est-ce pas, vous pouvez participer à la fête de ces chaises. Qui achète ces chaises?